Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le pape François a adressé une lettre aux évêques des États-Unis sur la politique migratoire de la nouvelle administration américaine qui porte atteinte à la dignité humaine. Les détails dans quelques instants. À l'occasion de la 33e journée mondiale des malades célébrée le 11 février, François invite à s'appuyer sur le secours et la grâce de Dieu. Le 11 février, c'est également la fête marquant l'anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes en 1858 et celle de la signature des accords de Latran en 1929, permettant une normalisation des relations entre l'Italie et le Saint-Siège et la création de l'État de la Cité du Vatican. L'actualité de l'Église nous conduira également au Tchad. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concerne la République démocratique du Congo, le Soudan et l'Égypte. La rubrique de ce programme est consacrée aux prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église marquée par le message que le pape a adressé aux évêques américains soulignant combien l'expulsion des migrants porte atteinte à la dignité humaine.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Dans ce long courrier, le Saint-Père s'inquiète de la politique migratoire de la nouvelle administration américaine qui porte atteinte à la dignité humaine, réaffirme les principes d'un état de droit et exhorte les catholiques à ne pas céder aux récits discriminants, les précisions d'Olivier Bonnel.
Les mots se veulent graves à la hauteur de la crise migratoire que vivent actuellement les États-Unis, où les expulsions en masse d'étrangers, conformément aux promesses du président Trump, ont commencé, notamment sur la base de Guantanamo. Le pape rappelle d'abord que le phénomène migratoire s'enracine dans l'Écriture sainte, notamment dans le livre de l'Exode, et rappelle aussi que la Sainte Famille a vécu l'exil. Mais François se fait surtout l'avocat de la dignité humaine, bafouée selon lui par ces expulsions de migrants. Évoquant une crise majeure, il ne cache pas ainsi sa préoccupation devant ce qu'il nomme la mise en place d'un programme de déportation massive, tout en reconnaissant le droit d'une nation de se protéger des crimes commis. Le pape rappelle ainsi à travers ce courrier les fondements d'un état de droit authentique, un développement qui ne peut se faire par le privilège des uns et le sacrifice des autres. Un état de droit, écrit-il encore, se vérifie précisément dans le traitement digne que méritent toutes les personnes, en particulier les plus pauvres et les plus marginalisés. Dans cette lettre, François met en garde aussi contre une société de la loi du plus fort, exhorte catholiques et même au-delà à ne pas céder aux récits qui discriminent et causent des souffrances inutiles. Le Saint-Père remercie enfin les évêques américains pour leur travail précieux jusqu'ici auprès des personnes migrantes, en annonçant Jésus-Christ et en promouvant les droits humains fondamentaux.
Dans un message adressé au président français Emmanuel Macron à l'occasion du sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, François appelle à la création d'une plateforme dans laquelle ces nouvelles technologies peuvent être un outil de lutte contre la pauvreté, de protection des cultures, d'éco-durabilité. Je souhaite que les prochains sommets considèrent plus en profondeur les effets sociaux de l'intelligence artificielle sur les relations humaines, l'information et l'éducation, affirme le pape, qui rappelle que seul le cœur humain peut révéler le sens de notre existence. Cette citation de Blaise Pascal, indique le pape dans ce message, est la clé d'interprétation du texte qui revient sur un sujet d'une actualité cruciale. Le cœur ne peut jamais tromper, alors que les algorithmes peuvent être utilisés pour manipuler et induire en erreur. Note le Saint-Père, dans le texte lu par le nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore. Le dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements a rendu public mardi 11 février un décret inscrivant en date du 5 septembre la célébration de la mémoire facultative de Sainte Thérésa de Calcutta dans le calendrier du rite romain. Vivant l'évangile avec profondeur et audace, Sainte Thérésa de Calcutta est témoin de la dignité et du privilège du service humble, parce qu'elle voulait être non seulement la dernière, mais la servante des derniers. Elle est devenue un modèle de miséricorde et une véritable image du bon samaritain, indique le décret signé par le préfet du dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements, le cardinal Arthur Roche, qui précise par la suite qu'il faudra donc insérer cette date dans tous les calendriers et documents liturgiques pour la célébration de la messe et de la liturgie des heures. Caritas Internationalis condamne fermement la décision de l'administration américaine de fermer brusquement les bureaux et les programmes financés par l'USAID. Cette décision menace la vie et la dignité de millions de personnes, indique Caritas Internationalis dans un communiqué qui reconnaît toutefois le droit de toute nouvelle administration de revoir sa stratégie d'aide étrangère. Cependant, la façon impitoyable et chaotique dont cette décision insensible est mise en œuvre menace la vie et la dignité des millions de personnes, déplore le communiqué. L'actualité de l'Église nous conduit au Tchad. Édouard Takadji nous fait part de la célébration dimanche 9 février de la clôture de la journée de l'enfance missionnaire à la paroisse Saint-Charles-Borromée à Mongo et la célébration eucharistique du lancement de l'année jubilaire dans la paroisse Sainte-Joséphine Bakita à N'Djamena.
À la paroisse Saint-Charles-Borromée, ce sont les enfants des différents mouvements de l'apostolat des enfants qui se sont retrouvés pour cette Eucharistie, marquant ainsi la fin de la mobilisation et des collectes pour l'enfance missionnaire 2025. À travers ces différentes collectes organisées dans les mouvements, les enfants de l'Église Famille de Dieu qui est en N'Djamena viennent ainsi à travers ces gestes aider les autres enfants à travers le monde. Dans son exhortation lors de cette Eucharistie, l'évêque de la préfecture apostolique de Mongo, Mgr Philippe Abouchen, invite les enfants à être attentifs à l'écoute de la parole de Dieu et répondre à son appel.
Dieu appelle tous les hommes pour être ses messagers. Il vous a appelé chacun par son nom pour être son messager. Dieu appelle qui il veut, comme il veut. Il appelle un vieux. Abraham était déjà âgé et il l'a appelé. Mais il a appelé aussi des jeunes.
En lançant du côté de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita d'Atron 1 l'année jubilaire, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Mgr Edmond Ditanga, invite les fidèles de son diocèse à annoncer l'évangile sans crainte et s'engager dans la vie de leur pays et non rester comme des observateurs.
Engageons-nous. Ne soyons pas des spectateurs de la vie sociale, de la vie nationale, de la vie politique. Soyons des acteurs. Nous avons l'Esprit Saint avec nous. Nous avons la force de Dieu avec nous.
Édouard Takadji N'Djamena pour Radio Vatican.
L'Église a célébré mardi 11 février la 33e journée mondiale des malades qui, en cette année jubilaire, a pour thème « L'espérance ne déçoit pas ». Occasion pour le père André Kakoubende, aumônier de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, d'exhorter les malades à demeurer fidèles à Dieu dans leurs souffrances. On l'écoute.
Cette journée nous rappelle que les personnes malades occupent une place centrale dans le cœur de Dieu et dans la mission de l'Église. C'est une journée qui nous invite tous à porter un regard particulier sur ceux qui souffrent, à reconnaître leur dignité, à leur manifester notre solidarité. Et c'est aussi un moment pour sensibiliser toute la société à l'importance de prendre soin des plus fragiles, de promouvoir une culture de la compassion, de l'accompagnement et de réfléchir aux moyens concrets pour améliorer les conditions de vie et de soins des malades.
L'espérance ne déçoit pas, c'est le thème choisi par le pape François pour cette journée en cette année jubilaire. Comment comprendre ce thème de l'espérance pour les malades?
Effectivement, ce thème est très profond pour nous autres. Nul ne peut avancer dans cette vie s'il n'a en lui aucune épaisseur d'espérance. C'est l'espérance qui nous fait vivre. Sans l'espérance, tout ce qui se fait dans l'hôpital n'a aucun sens. Le malade, avant tout, doit être habité par cette soif de guérison. Et c'est cela l'espérance. Et nous encourageons sans cesse les malades à lutter au-delà des traitements qui leur sont fournis en se disant « Le Seigneur est avec moi et je ne dois pas céder au découragement, alors je dois moi aussi demeurer dans cette espérance, lutter jusqu'au bout. » Et pour nous, c'est essentiel, parce que sans espérance, il est difficile d'obtenir des résultats efficients dans la quête d'une bonne santé.
Alors, pour dire que le miracle de la guérison ne peut s'opérer que dans l'espérance en Dieu.
Alors, l'espérance, c'est le premier palier pour pouvoir obtenir la miséricorde de Dieu, parce que C'est au nom de notre foi que nous pouvons accueillir les grâces de Dieu dans notre vie. Quand nous regardons les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un poids de fond, une aspiration à un mieux-être, une aspiration à quelque chose de beau et de grand que l'être humain ne peut accorder. Et Jésus, au nom de la foi, a apporté la guérison. Alors, pour pouvoir obtenir cette guérison pour un malade aujourd'hui, pour pouvoir obtenir cette faveur de Dieu sous forme de miracle, il faut l'espérance. Et cette espérance, c'est ce qui permet au malade de pouvoir vraiment retrouver un réconfort dans sa vie.
Mon Père, quelle est votre prière aujourd'hui pour tous les malades du monde entier?
Chers frères et sœurs, malades, vous qui luttez chaque jour pour obtenir la guérison et un mieux-être, sachez que le Seigneur ne vous abandonne pas. Sachez que Dieu agit à travers tous ces instants de prière. Dieu est capable de grandes choses pour vous. Demeurez en lui. Manifestez votre espérance en lui et dites-vous intérieurement, le Seigneur est là et je sais qu'il est capable de grandes choses dans ma vie.
Le père André Kakoubende, aumônier de l'hôpital catholique Saint-Joseph Muscati de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, il répondait aux questions de Françoise Niamien.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Des affrontements entre le groupe armé M23 allié à des troupes rwandaises et l'armée congolaise se sont déroulés mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, 3 jours après un appel de dirigeants africains à un cessez-le-feu qui a été suivi d'une relative accalmie. Les combattants du groupe armé M23 et les soldats rwandais ont attaqué à l'aube des positions de l'armée congolaise près d'Iwussi. Cette localité est située à environ 70 km de Bukavu, capitale du Sud Kivu, et à quelques 40 km de l'aéroport provincial installé à Kavumu. Selon des sources sécuritaires, le M23 et ses alliés rwandais ont tenté ces derniers jours de prendre le contrôle des hauts plateaux surplombant la route principale menant à Bukavu et ainsi couper les voies d'approvisionnement de l'armée congolaise. À Goma, la situation humanitaire s'aggrave. L'eau courante est coupée dans une partie de la ville. Sans autre solution, des habitants s'approvisionnent dans l'eau du lac Kivu, où des corps ont été repêchés après les combats. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU OCHA, une augmentation de cas de choléra a été observée dans la région, notamment parmi les populations déplacées par les combats. La guerre qui sévit depuis avril 2023 au Soudan a entraîné la pire crise humanitaire au monde avec des centaines de milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition sévère aiguë, a déploré mardi l'Union africaine. Les affrontements entre les paramilitaires des forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo et l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, deux anciens alliés devenus rivaux, ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé mardi à la reconstruction de Gaza sans déplacer les Palestiniens après que le président américain Donald Trump ait affirmé qu'il pourrait suspendre l'aide à l'Égypte et à la Jordanie si ces pays refusent d'accueillir les Gazaouis. Le président égyptien a réaffirmé que la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël était la seule garantie de parvenir à une paix durable au Moyen-Orient. Passons à la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde, présentée par Fabrice Baguendekere.
Eh bien, c'est essentiellement sur deux continents que nous sommes portés aujourd'hui, l'Asie et l'Amérique. Sur le continent asiatique, un coup de pied dans l'estomac, telle a été la description qu'a fait le père David Neuhaus, jésuite israélien, des conjonctures qui ont circulé ces derniers jours sur l'avenir de la bande de Gaza, rapporte l'agence Fides. La semaine dernière, le président américain Donald Trump avait exposé le plan de reconstruction et de développement de la bande de Gaza sous le contrôle direct des États-Unis afin d'apporter la stabilité au Moyen-Orient. Selon les prêtres jésuites, le plan audacieusement proclamé par le président américain est une nouvelle étape dans l'expulsion des Palestiniens dans leur patrie. Dans cette vision, dit-il, il n'y a pas de place pour les personnes qui considèrent Gaza comme leur patrie. Au sujet du même conflit israélo-palestinien, Sœur Silouane, responsable des 65 écoles francophones chrétiennes présentes dans les territoires palestiniens et à Jérusalem, nous parle des initiatives de l'Église, notamment dans le milieu éducatif, pour un vivre ensemble harmonieux, une culture de non-violence, des réconciliations et de paix chez les enfants palestiniens et israéliens.
Nous apprenons à nos élèves à vivre ensemble, c'est-à-dire à s'accepter comme on est, à dialoguer, à partager. Actuellement, dans toute la région du Proche-Orient, il faut apprendre à pratiquer la non-violence, c'est-à-dire comment réagir dans le conflit, ne pas se mettre en colère, trouver des solutions de paix. On fait des groupes de parole, on choisit un sujet général et on apprend aux enfants à donner leur opinion, on apprend aux enfants à prendre parti. Par exemple, je suis palestinien, mais je vais prendre le rôle d'un Israélien. Je suis pour essayer justement d'apprendre à se mettre dans des situations différentes et accompagner l'autre. C'est le plus important parce que l'école doit être un lieu de paix, de sérénité, un lieu stable qui leur permet d'être un minimum heureux malgré la situation des différents pays.
Toujours sur le continent asiatique, l'Église catholique de l'État de Chine a été touchée par un attentat à la bombe jeudi 6 février. L'armée de Myanmar a bombardé et endommagé l'Église catholique du Sacré-Cœur de Jésus à Minda, une localité de l'État Chine au nord-ouest de la Birmanie. Il s'agit de l'église choisie comme cathédrale du nouveau diocèse de Minda, érigée le 25 janvier par le pape François. L'édifice a été touché par un bombardement aérien qui a endommagé son toit et ses vitraux et l'ont rendu inutilisable. Il n'y a pas eu de blessés, nous indique Fides, les prêtres et les fidèles ayant déjà quitté la zone en raison des mauvaises conditions de sécurité et des combats en cours. L'épisode des dégâts causés à l'église a laissé un goût amer aux fidèles locaux qui, cependant, ont déjà déclaré qu'ils ne se décourageraient pas et qu'ils travailleraient dur pour réparer le toit de l'église et restaurer toutes les parties endommagées, a déclaré le père Paulinus, un prêtre local. Et sur le continent américain, en Colombie, tandis que la situation reste très tendue dans le Catatumbo, la région du nord-ouest colombien qui depuis la mi-janvier est le théâtre d'un des plus graves épisodes de violence de ces dernières années entre les guérillas de l'armée de libération nationale et une fraction dissidente des FARC. À Tibou, petite ville épicentre de la violence, l'église coordonne la réponse humanitaire, les précisions de William Gazo.
Affairé dans la cour de l'église de Tibou, le père Ovidio se souvient des jours qui ont suivi le début des combats. Des centaines de personnes avaient quitté leur ferme et faisaient la queue devant l'église pour recevoir de la nourriture et savoir où dormir, raconte le prêtre, les traits tirés par la fatigue. Ce n'est pas la première fois, mais là c'est pire que d'habitude, ajoute-t-il. Comme souvent en Colombie, les victimes du conflit armé se sont d'abord tournées vers l'église pour se mettre en sécurité. Dans la région marginalisée du Catatumbo, ensanglantée par les combats entre l'ELN et un groupe dissident des FARC, l'église s'est depuis longtemps substituée à l'État. Des plus de 50 000 personnes déplacées en l'espace de 3 semaines, 12 000 ont trouvé refuge dans la petite ville de Tibou. Ici, le diocèse organise l'aide humanitaire. La salle des curés sert aujourd'hui à entreposer les vivres, tandis que le séminaire a, lui, été transformé en refuge temporaire pour des centaines de familles. L'action de l'église va même plus loin. Lorsqu'une personne menacée directement par une guérilla vient nous voir, nous l'accueillons puis nous la sortons du territoire, relate le père Jesus Arley, un autre prêtre du diocèse. En parallèle, l'évêque de Tibou, Monseigneur Israël Cortés, parcourt la région pour tenter de raisonner les guérilleros et convaincre leur chef de s'asseoir de nouveau à la table des négociations. Tibou, William Gazo, pour Radio Vatican.
Au sujet de cette crise, les évêques colombiens réunis pour la 118e assemblée plénière à Bogota, la capitale du pays, ont exprimé leur inquiétude face aux demandes d'aide et la souffrance des populations et des communautés gravement affectées par ces conflits, en appelant à des réponses efficaces à ces problèmes qui affligent leur nation.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-José Mwando-Boisboilou a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.
Good, it must be.